Le dossier Epstein à présent et le volet français. Trois semaines que ce dossier, ou ces dossiers plutôt, inondent la planète. L'onde de choc de cette fin de semaine, c'était jeudi, l'arrestation de l'ex-prince Andrew et son interrogatoire pendant 10 heures. Mais la France n'est pas épargnée, loin de là. Pour en parler avec nous, j'accueille Vincent Ventigem, grand reporter PJ du service de BFM TV, Mathias Darmon, avocat d'Innocence en danger. Bonjour. Et Sir Andrew Simpkin, j'espère que je prononce bien.
J'adore le titre, je prends.
Ok. Président de la Royal Society of Saint-Georges, merci d'être avec nous. On va d'abord démarrer avec le cas Andrew, le frère du roi Charles III, donc dans les filets des dossiers Epstein, soupçonné d'avoir transmis à Jeffrey Epstein des documents. Pour quelle contrepartie? C'est la question qu'on se pose en direct de Londres. Laura Calmus pour BFM TV. Quel effet sur le peuple anglais lorsque l'ex-prince Andrew est placé en garde à vue? Est-ce que ça signifie que c'est la fin de l'impunité? Alors, on retrouvera Laura Calmus dans quelques instants. Je voulais vous demander, notre équivalent en français, lorsque l'ex-prince Andrew est mis en garde à vue, interrogé pendant 10 heures, qu'est-ce que serait l'équivalent chez nous en France? On a du mal à trouver. C'est une bombe.
Vous auriez dû faire ça avec toute la classe de l'époque. Mitterrand, d'ailleurs, peut-être qu'ils vont y passer maintenant.
Quel effet sur le peuple britannique, selon vous?
Nous avons une éthique protestante qui va du travail jusqu'au mœurs, qui implique que chaque personne qui a fauté va direct dans l'enfer. Donc, quelque part, Andrew, de toute évidence, est coupable d'insouciance ou de bêtises, voire de la haute trahison. Donc, quoi qu'il arrive, on souhaite que Andrew soit écarté définitivement de ses fonctions royales.
Mais qu'est-ce que ça fait? Le peuple britannique est très attaché à la monarchie. Est-ce qu'il savait d'une manière ou d'une autre que les jours de l'ex-prince Andrew étaient déjà comptés? Comment est-ce qu'il...
Mais vous savez, depuis 2011, il a été démissionné de son rôle au commissaire au commerce. Et depuis 2019, depuis son entretien catastrophique à la BBC, où il s'est mis en danger tout seul comme un imbécile. Absolument. Vraiment comme un homme naïf et inconséquent, encore une fois. Et il est fini. Depuis 2019, même sa propre mère a dit « Andrew, mon petit, tu ne feras plus rien pour la famille royale ». Depuis 2022, Charles a enlevé son nom, son titre, ses sous, ses logements. Okay. Et il a terminé tout récemment dans une cellule.
Andrew, il a quand même été 7-8 heures en garde à vue, c'est ça? Ou entendu, c'est pas si on dit 7-8 heures, c'est quand même pas beaucoup.
11 heures,
oui, c'est pas beaucoup quand même, pour toutes les questions qu'on doit avoir à lui poser. Oui. Il est toujours logé, d'après ce que j'ai entendu, je suis pas un spécialiste, mais dans l'enceinte d'un domaine qui appartient à la couronne.
Non, faux. Il a été muté de Windsor, qui appartient à l'État, à la couronne, à Sandringham, qui est un domaine privé qui appartient à Charles. Et donc Charles loge et paye son petit frère.
Oui, donc quand même une ancienne ferme, c'est ça, qui a
une
été aménagée.
Ferme qui devait être la maison de retraite du prince Philippe.
Donc il est quand même un peu protégé, non? On pourrait lui dire vous quittez la famille royale, vous quittez le domaine où tout ce qui appartient.
Tout le problème, c'est comme pour les déchets radioactifs. il faut les mettre quelque part. Donc il faut empêcher cet homme d'écrire ses mémoires, il faut empêcher cet homme de prendre la parole en public, il faut empêcher Foggy de faire la même chose. Donc quelque part, nous avons quelques petits soucis à régler.
Alors on va rejoindre Laura Calmus parce qu'on l'avait perdue et on l'a retrouvée en direct de Londres. Quel effet sur le peuple anglais, Laura, quand l'ex-prince Andrew est interrogé pendant plus de 11 heures? Est-ce que c'est la fin de l'impunité? C'est ce que je vous demandais tout à l'heure.
Eh bien, ça a été beaucoup dit ces derniers jours. Personne n'est au-dessus de la loi. Le Premier ministre Keir Starmer l'a dit. Les Britanniques l'ont également répété. Il y a eu aussi ce communiqué très rare du roi Charles III qui a dit que la loi devait suivre son cours. Et ça dénote avec ce qu'on a vu ces dernières années. Rappelez-vous, en 2022, il y a eu cet accord financier entre Virginia Giuffre et Andrew. 12 millions de livres, soit 13 millions d'euros, payés en partie, on le sait désormais, par la reine Elisabeth. Alors, c'était une façon de refermer discrètement l'affaire. Cette fois-ci, les images ont littéralement choqué les Britanniques. Il y a eu cette garde à vue, ces arrestations également, ces perquisitions qui vont continuer d'ailleurs jusqu'à demain à Royal Lodge. Alors on se dit qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'il n'y a plus donc cette impunité avec, regardez, la une du Daily Mirror qui va encore plus loin, qui se demande who knew what, qui savait quoi, car en fait, eh bien, il y a tout un système qui est remis en question. On se demande s'il n'y avait pas eu aussi une conspiration du silence.
Merci beaucoup, Laura Calmus, en direct de Londres. Il y a effectivement des questions qui se posent en termes de complicité. Vincent Ventigem, vous êtes avec nous parce que vous avez épluché aussi le dossier Brunel, le dossier français. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le dossier Brunel, il y a le nom du prince Andrew.
Oui, effectivement, le dossier Brunel, pour bien le resituer, c'est le dossier du nom de cet agent de mannequin qui a été lui aussi pris dans les filets de l'affaire Epstein, qui avait été mis en examen pour viol, soupçonné d'être l'un des rabatteurs de jeunes femmes auprès de Jeffrey Epstein. Il s'est suicidé dans sa cellule de la prison de la Santé en 2022, donc il ne peut plus être poursuivi aujourd'hui. Il y a une extinction de l'action publique. Mais quand on regarde le dossier, c'est vrai qu'on se rend compte que le nom d'Andrew apparaît. Il apparaît notamment dans les déclarations du majordome de Jeffrey Epstein, puisque Jeffrey Epstein avait un somptueux appartement 22 avenue Foch, ici à Paris. Et le majordome a été interrogé. Et dans le cadre de cette audition, il dit « Bah oui, le prince Andrew, il est venu deux fois à Paris. Mm-hmm. » En tout cas, le souvenir qu'il en a, c'est celui-là. Mm-hmm. Il se souvient notamment l'avoir conduit sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, de l'avoir attendu pendant 2 heures. Précise-t-il, Jeffrey Epstein n'était pas à Paris. C'est bien pour montrer que c'est une affaire tentaculaire. Là, on parle de l'affaire Andrew, du prince Andrew. Les déflagrations de l'affaire Epstein, elles portent sur 2 volets finalement. On a tout le volet pédocriminel et on a le volet transmission d'informations, parce que c'est ce qui concerne aussi Andrew et c'est la raison pour laquelle il a été placé en garde à vue cette semaine. Donc on le voit, c'est une déflagration quasi mondiale.
Alors, la justice française entre à son tour dans le dossier. Sabina Eklasova, vous allez nous éclairer. Que sait-on aujourd'hui ? Qu'a décidé le parquet de Paris ? On a attendu longtemps la communication du parquet. Elle est arrivée et vous allez nous la détailler.
Oui, alors après la publication de documents par les autorités américaines, le parquet de Paris ouvre 2 enquêtes cadres, l'une pour traite des êtres humains et l'autre pour blanchiment et infraction financière. 5 magistrats référents sont désignés, 2 issus des sections financières et 3 spécialisés dans les infractions sexuelles. Leur rôle, centraliser les plaintes et signalements liés à la galaxie Epstein et coordonner les investigations.
Alors, pourquoi est-ce que la justice revient aujourd'hui sur le dossier Brunel ? Et surtout, à ce stade, le parquet va détailler 3 affaires précises qui sont déjà entre leurs mains.
Oui, alors d'abord, le 10 février, un signalement du ministère des Affaires étrangères, le nom de Fabrice Hédan, secrétaire des Affaires étrangères principales, apparaît dans les documents américains. Le 11 février 2026, une femme de nationalité suédoise dépose plainte contre Daniel Siad, recruteur de mannequins. Elle l'accuse de viol pour des faits qui auraient été commis en France en 1990. Et enfin, donc, le 12 février, le parquet de Paris est saisi d'une plainte visant le chef d'orchestre Frédéric Chasselin pour des faits présumés d'harcèlement sexuel datant de 2016.
Merci Sabina. Alors Vincent, le parquet réexamine le volet français ouvert en 2019, vous avez dit, par Jean-Luc Brunel. Je me tourne vers vous aussi, Maître Darmon. C'est assez inédit quand même que le parquet décide de réexaminer, de rouvrir, de réanalyser. Est-ce que vous avez déjà vu ce cas de figure ?
Non, bon, ça faisait longtemps qu'on attendait que le parquet communique enfin sur le volet Epstein en France. Enfin, on a eu ces annonces de la Première République mercredi matin.
C'est ça.
C'est, à mon sens, inédit d'avoir 5 magistrats référents, donc je suppose c'est des procureurs de la République, qui seront en charge de ce dossier, donc à la fois financier et pédocriminel. C'est, oui, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la justice.
C'est ce que vous demandiez depuis 2019, d'une certaine
manière. Depuis 2019 qu'on attend que le parquet se saisisse véritablement de ce dossier. Donc c'est une bonne chose. Et je pense que c'est un appel du pied pour les victimes. C'est ce que disait la procureure publique aussi. C'est maintenant, nous vous écoutons, nous vous attendons. Mm-hmm. Et, espérons ensuite que la parole puisse enfin se libérer.
Les plus grands magistrats, enfin, les plus grands services, en tout cas de la magistrature, et puis aussi de la police, hein, puisque tous les offices quasiment, hein, la cybercriminalité, les victimes, tout le monde est saisi.
Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, parce que la procureure, lorsqu'elle a donné cette interview à France Info mercredi matin, de mémoire, elle l'a bien précisé aussi, que le but c'est aussi de recueillir la parole des victimes à l'occasion peut-être d'un traumatisme qui s'est ravivé avec la divulgation des documents, en disant peut-être que certaines victimes, voilà, pour des raisons qui leur sont propres, ne voulaient pas témoigner en 2019 quand le premier dossier est arrivé. Peut-être qu'aujourd'hui le souhaiteront-elles.
Est-ce que vous avez, vous, depuis, des remontées via votre cabinet de jeunes femmes qui aimeraient témoigner dans ce sillage des dossiers Epstein ?
Ben, c'est un peu tôt depuis mercredi, mais on avait déjà eu avant, depuis la transmission des documents par les États-Unis, des familles qui nous ont contactés ou des victimes. Nous, la première chose qu'on leur dit, c'est de toute façon d'aller déposer plainte.
Bien sûr.
Parce qu'on n'est pas certain de la véracité des propos qui nous sont rapportés.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est des personnes qui ont entendu des choses à gauche, à droite et qui évoquent certains faits? Nous, le réflexe premier, de toute façon, c'est d'aller déposer plainte au parquet, soit d'aller déposer plainte auprès des services de police directement, soit rédiger un courrier à l'attention du parquet. Et ensuite, ils verront quelle enquête peut être menée. Mais je veux revenir sur un point important, c'est le communiqué de presse du parquet, avant d'ailleurs que la procureure parle sur France Info, c'était une réanalyse intégrale du dossier Brunet.
Vous avez raison, tous les
chaque mots comptent. Chaque mot compte.
Sachant qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce dossier, on ne peut pas dire non plus que rien n'a été fait.
Il y a eu des perquisitions, il y a eu des saisies, il y a eu des choses.
Mais c'est quand même fou de se dire qu'on a eu une instruction qui a été ouverte pendant de 2019 à 2023, alors dans un non-lieu, c'est juillet 2023, de se dire que le parquet va récupérer un dossier pour le réanalyser.
Donc ça, vous aviez jamais vu.
J'avais jamais vu ça avant.
Ça c'est. Et est-ce que vous savez ce que sont devenus les fameux scellés? On parle de la perquisition, Vincent, vous nous en avez parlé beaucoup à l'antenne ici à BFM TV. Donc, on trouve au cours de la perquisition un CD-ROM,
des
clés USB, on saisit des ordinateurs, il y a 62 noms de mémoire de jeunes femmes.
Et puis surtout, il y a les emails, un tout petit échantillon des emails d'Emile Epstein.
Et donc, pendant tout ce temps-là, on dit voilà, fin du dossier Brunel, est-ce que tout ça, ça a été détruit?
Il me semble que les scellés existent encore.
Vous n'en êtes pas sûr.
Avec des confrères, on en a parlé, et il me semble que les scellés existent encore. Ce serait une aberration de dire qu'ils étaient détruits. Compte tenu de la gravité des faits qui sont.
Non, mais donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir les réutiliser et les repasser à ce tamis-là.
Oui, mais il n'y a plus d'action publique, mais je veux dire, le dossier, il existe encore physiquement, numériquement.
Imaginez que le greffier dise, voilà, on lui dit, il n'y a plus d'action publique, les scellés, vous les détruisez. Vincent.
Oui, mais ce dossier, comme je le disais, beaucoup de choses ont quand même été faites à l'époque de cette enquête, entre 2019 et 2022. Il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été apportés, puisque Jean-Luc Brunel était visé par différentes plaintes, une dizaine au total, la plupart étaient prescrites, mais on le rappelle, quand il s'est donné la mort, il était mis en examen pour des viols sur deux jeunes femmes et pour le harcèlement sexuel sur une troisième, donc ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose, il y avait des auditions, il y avait des témoignages, il y a des investigations, c'est aussi tout ça qui va être réanalysé. Et pourquoi ça va être réanalysé? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est parce que on se rend compte avec la divulgation récente des 3 millions de documents par les autorités américaines que peut-être il y a des noms qui figurent dans ce dossier sur lesquels on s'était pas forcément arrêté en 2019-2022, mais là, avec les nouveaux documents, on va peut-être essayer de faire des liens.
Des résonances.
En tout cas, la procureure, elle dit, ça va être un travail titanesque, et ça, on s'en rend bien compte.
C'est sûr.
Sans garantie aucune d'un résultat à la fin, mais elle annonce les moyens conséquents pour analyser tout.
Alors, avec nous en ligne, Arnaud Wajdik, j'espère que je prononce bien votre nom, vous êtes journaliste à Ouest France, coordinateur des enquêtes sur Epstein pour votre journal. On découvre, par exemple, grâce à vous, que Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell voulaient s'offrir un château en France. Alors, expliquez-nous, que pouvez-vous nous dire de ce château de la Villette et de ses envies de châtelain, si je puis dire?
On est juste après la sortie du film Da Vinci Code en mai 2006. Epstein a l'air fasciné par les châteaux. Il veut s'offrir une propriété en France, effectivement. Et il repère ce domaine de 77 hectares situé à l'abri des regards à une heure de Paris. Ils font une offre, 5 millions d'euros, $5 millions. Ils visitent les lieux, ils organisent un dîner. On a retrouvé même des photos assez surréalistes et inédites où on les voit s'amuser dans la chapelle du château ou même inspecter les dépendances. Et puis il va exiger l'inventaire de tout ce qui se trouve dans le château. Il y a même une Bentley qui se trouve dans le garage. Visiblement, à cette époque-là, vu le nombre de mails qui existent autour du mot château et castle, il veut investir dans un château en France. Et on lui fait plusieurs propositions. Cette proposition, justement, de ce château dont vous parlez n'a pas pu se faire en raison d'un petit souci de finances et de montants proposés, mais il va en chercher d'autres. Il y a même un contact très influent comme Marianne de Rothschild qui va lui proposer des domaines en Seine-et-Marne. Et puis peu de temps après aussi, il va même faire une offre pour l'hôtel Lambert qui est situé sur l'île Saint-Louis à 25 minutes du siège de BFM TV. Il voulait y fonder un institut mathématique pour sans doute réunir des cercles scientifiques et intellectuels en France, et peut-être aussi se racheter quelque part une conduite à un moment donné où il allait subir des ennuis judiciaires à un an et demi ou deux ans après.
En tout cas, il avait des envies d'acquisition française, c'est ce qu'on comprend avec vous. Quand vous épluchez tous ces dossiers Epstein, et c'est un travail colossal et on le sait, vous découvrez aussi la mission d'une étudiante russe en droit à la Sorbonne qui, écrivez-vous, recrutait des femmes pour Jeffrey Epstein à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce profil ?
Oui, on est à la période 2012-2013. C'est une étudiante modèle. Elle a 21 ans. Elle est en droit à la Sorbonne, comme vous le disiez. C'est aussi une ancienne championne olympique de snowboard. Mais de l'autre côté, les mails révèlent qu'elle est devenue le radar d'Epstein à Paris. Elle s'installe avenue Foch. Elle commence à lui sourcer des profils. Lui-même, elle lui écrit texto dans les mails. Je peux te trouver de belles femmes à Paris. Et puis, il y a cette phrase qui fait un petit peu froid dans le dos. Parfois, je pense que je suis ta Ghislaine Maxwell à Paris. Avec un petit haha juste à la fin, qui finalement montre toute l'ambiguïté de l'affaire, une forme de légèreté apparente sur un système de recrutement qui en réalité est d'une violence absolue. Elle l'appelle cher professeur, elle est prête à tout pour payer ses études, même à devenir escort girl, elle lui dit en ces mots. Bref, elle contribue, parmi tant d'autres sans doute, à faire de Paris une véritable plaque tournante, une sorte de vivier entre guillemets, pour alimenter le réseau Epstein avec des étudiantes françaises ou des mannequins russes et même d'autres femmes qui viennent de pays de l'Est.
Merci beaucoup. C'est ça qui nous intéresse, c'est Paris, cette plateforme, cette capitale du vice, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous entendez ce genre d'informations ? Il faut d'abord factuellement rappeler que Jeffrey Epstein, il passait un certain nombre de temps à Paris, dans cet appartement, et que visiblement, il s'y passait des choses.
C'est l'énorme araignée au cœur d'une toile d'araignée qui touche tout le monde, les têtes couronnées, les gouvernements, même quelques familles royales. Pour nous, en Angleterre, nous avons toujours des soucis par rapport à ce qui est Keir Starmer et Peter Mandelson, le fameux ambassadeur que Keir Starmer a nommé, tout en sachant qu'il était proche d'Epstein, etc. Et nous avons le problème de Fergie, nous avons le problème d'Andrew. Donc nous serons blancs comme neige, comme dirait l'ami Jack Lang, exactement, quand nous serons débarrassés de ces 3-4. Mais franchement, l'influence de cet homme est absolument...
Tentaculaire.
Extraordinaire.
C'est intéressant là ce que l'interview de notre confrère de West France. Absolument. Sur cette histoire de château, cette histoire, parce que ça vient corroborer ce qu'on dit depuis des semaines, ça vient ajouter un nouvel élément, c'est qu'en fait Jeffrey Epstein, son histoire, c'est d'avoir un réseau pour avoir des jeunes femmes, mais pour avoir aussi de l'argent pour investir. Ce qu'il cherche, c'est avoir de l'information. Où est-ce que je dois investir? Où est-ce que je peux acheter un château? Où est-ce que je peux trouver tel profil?
Non, mais c'est surtout que ça, c'est fait avec des contreparties. Il y a forcément des deals.
C'est toujours la question. Alors, ce qui est intéressant dans le dossier Brunel, par ailleurs, et c'est noté par les enquêteurs, à aucun moment, il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'échanges de courriels, à aucun moment, il n'est fait état de relations sexuelles ou de transmission d'informations sur des jeunes filles dans le but d'avoir des relations sexuelles. Mais les enquêteurs notent que les désidératas, je reprends leur terme, de chacun des deux semblent bien connus de chacun des deux.
Et Vincent, et on a vraiment l'impression, là, il y a la France d'en haut, la France d'en bas, quoi. Ces gens-là sont des intouchables. Un prince, un ministre, Jack Lang, des personnalités qui sont insoupçonnables.
Et à la fois des jeunes filles,
Est-ce que ça leur a permis finalement de traverser toutes ces tempêtes plus tranquillement, sans être inquiétés?
Oui, ça c'est sûr, mais ils sont plus intouchables maintenant.
C'est la fin de l'intimité.
Et c'est quand même quelque chose.
Et puis de l'autre côté, il y a des jeunes femmes, rappelons-le, qui sont souvent dans le besoin, désemparées et qui ont été dans les griffes de tous ces affreux personnages.
Tous ces hommes-là puissants, effectivement, ont réussi à cibler des jeunes femmes, parfois très jeunes, qui étaient vulnérables.
Exactement.
Et qui en fait étaient sous emprise de ces hommes parce qu'ils avaient de l'argent, parce qu'ils avaient un réseau, parce qu'ils avaient du pouvoir. Et forcément, elles allaient vers eux et c'est là que le phénomène d'emprise s'exerce le plus.
Un exemple, je peux donner juste un exemple, celui de Rosa. Jean-Luc Brunel va la récupérer en Ouzbékistan en 2008 et lui dit: je vais te mettre au service de Jeffrey Epstein parce que tes parents n'ont que 100 dollars pour faire vivre toute la famille. Elle part aux États-Unis, elle se fait abuser par Jeffrey Epstein qui demande régulièrement à la faire venir avec Jean-Luc Brunel. C'est ça aussi. C'est vrai qu'on parle des intouchables, mais il ne faut pas oublier les victimes qui, elles, sont bien souvent des personnes fragiles.
Merci à tous de vos lumières françaises, britanniques, de vos éclairages.